Radio Grand Ciel, guten Tag, bonjour. Am Mikrofon Michel Giroux, à la technique Simon Martin.
Ich bin nicht hier wegen Mama, nicht hier wegen Papa und nicht wegen Onkel Udo bin ich hier. Der Bürgermeister von Berlin, Prinzessin Caroline, sind nicht der Grund, warum ich heute hier erschien. Sieh da der Jauch.
Willkommen, bienvenue, liebe Zuhörer, dans notre émission Die Deutschen, avec votre hôte Michel Giroux. Aujourd'hui, nous avons une invitée. Nous allons nous entretenir avec Elke Mittmann. Elle va se présenter. Nous allons nous entretenir du Bauhaus. J'ai préféré m'adresser à quelqu'un qui s'y connaît bien dans ce domaine pour vous expliquer ce qu'est le Bauhaus, dont c'était l'anniversaire cette année.
Alors, mon nom c'est Mittmann, je suis historien de l'art et de l'architecture. J'ai enseigné à l'école d'architecture de Strasbourg et je dirige en même temps la maison de l'architecture Centre-Val-de-Loire qui se situe à Orléans. Et j'ai travaillé pendant de nombreuses années à la Fondation Bauhaus à Dessau.
D'où votre intérêt pour le mouvement. Donc, je vais vous poser quelques questions pour
Absolument.
Découvrir un peu ce mouvement, faire découvrir ce mouvement aux Français et peut-être aussi à des jeunes, hein, puisque je suis enseignante. Alors, ce mouvement, le Bauhaus, pourriez-vous nous expliquer, nous raconter ce mouvement architectural qu'on appelle le Bauhaus. Et d'abord, que signifie ce nom?
C'est un mot qui est difficilement traduisible. En français, ça veut dire construire et Haus, ça veut dire maison. Alors, si on voudrait traduire comme ça, c'est la maison à construire ou la maison construite ou voilà, mettre construire et maison ensemble. C'est un peu compliqué. En langue française, et donc c'est une création en fait d'un mot qui remonte donc au début des années 20. Pour être plus exact, ça remonte à 1919 lorsque le créateur du Bauhaus, donc Walter Gropius, est appelé à créer une nouvelle école à Weimar. Et cette nouvelle école a l'objectif d'être beaucoup plus orientée à la fois vers les dimensions modernes qui concernent les métiers liés à l'industrie. Mais il consiste aussi à mettre ensemble plusieurs écoles qui existent déjà à Weimar. Donc, à la fois l'école des arts appliqués et l'école des beaux-arts. Donc, en fait, il crée en fait, à partir de cela un nouveau type d'école. Et ce nouveau type d'école, en fait, vise à mettre toutes les disciplines qui convergent vers l'architecture, c'est pour ça Bauhaus, qui convergent vers l'architecture, sous un seul et unique toit. Donc, on trouve les ateliers sur le métal, sur le bois, sur la couleur, sur la peinture, sur la céramique. Ils sont tous réunis dans un seul et unique école pour effectivement avoir toutes ces disciplines ensemble pour après créer ensemble, à l'image en fait des loges des bâtisseurs du Moyen Âge, qui constituent en quelque sorte une sorte de matrice intellectuelle pour Walter Gropius. Et puis, puisque vous êtes à Chartres, vous connaissez bien en fait ces loges depuis le Moyen Âge, qui étaient en fait constituées de toutes les différentes disciplines, maçons, sculpteurs, architectes, qui en fait travaillaient sur un seul et unique bâtiment qui était la cathédrale. Donc, c'est un peu cette image-là, cette image très idéaliste qui va être portée par Gropius, qui en est le créateur, à partir de 1919.
Est-ce que vous pourriez nous dire qui est vraiment Walter Gropius? Quelle formation il a eu? Est-ce qu'il était architecte de formation?
Oui, il était architecte de formation. Il a fait ses études à Berlin. Et donc, c'est un architecte qui s'intéresse depuis les années 1907-1908 à la question de l'industrie, parce que il est très fortement aussi influencé par un autre mouvement qui émerge en Allemagne à partir de 1907, qui s'appelle Deutscher Werkbund. Donc, c'est c'est une association des artistes, des architectes, des industriels pour créer en fait ce qu'on appelle aujourd'hui le design industriel et pour en fait créer pour la première fois, pour dépasser en quelque sorte la dimension trop historique de l'architecture et des ustensiles de tous les jours, pour créer en fait une sorte de synthèse entre les métiers d'art, l'artisanat et l'industrie. Et Gropius en est un acteur principal de ce mouvement, avec la création d'une usine phare qui va être construite à côté de Hanovre, qui est l'usine Fagus, qui est une usine qui fabrique des moules pour les chaussures. Et que c'est la première fois qu'il crée un bâtiment complètement en verre, enfin une grande partie en verre, qui en fait symbolise en quelque sorte cette nouvelle idée de créer en fait une sorte de synthèse entre art et industrie. Et il va donc être connu grâce à ce bâtiment, mais aussi il va être connu parce qu'il s'engage très fortement à créer des expositions autour de l'architecture industrielle qui traverse l'Allemagne. Donc, il est en tant que jeune architecte, parce qu'il est né à la fin des années 80 du 19e siècle, en tant que jeune architecte, il est connu dans le monde artistique et architectural en Allemagne comme quelqu'un de très progressiste et qui, en fait, veut dépasser en fait, cet ancien esprit académique qui règne en Allemagne en architecture.
Est-ce que vous pourriez, pour nos auditeurs, bien préciser quels sont les principes qui guident une maison construite d'après les idées de Gropius ?
C'est une bonne question parce qu'il faut savoir que quand Gropius commence à créer le Bauhaus en 1919, il n'y a pas d'enseignement en architecture. Et qu'il n'y a pas d'enseignement en architecture jusqu'en 1927. Donc en fait, pendant 8 ans, même si le Bauhaus s'appelle Bauhaus, donc il est orienté vers l'architecture, il n'y a pas d'enseignement en architecture à proprement parler. Les élèves ou les étudiants qui souhaitent faire de l'architecture, qui passent en grande partie par son atelier, qui est en quelque sorte intégré dans l'école. Donc c'est une situation un peu hybride, parce que en fait, l'architecture moderne qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire où on a communément l'idée que c'est un cube blanche, si on veut dire ça comme ça, avec une absence de décor, c'est quelque chose qui est né au Bauhaus, mais qui est né aussi dans d'autres foyers du mouvement moderne en Europe, seulement à partir des années 1921, 22, 23. Donc en fait, il est beaucoup trop tôt pour Walter Gropius d'enseigner l'architecture. Donc en fait, le Bauhaus, comme il est orienté vers la pratique, il élabore leur réflexion architecturale à partir des commandes qu'ils ont.
D'accord.
En 1921-22, ils ont une première commande pour faire une maison en bois, très, très particulière. Et puis, en 1922-23, la ville de Weimar demande à ce qu'ils imaginent un lotissement. Parce qu'en Allemagne, à ce moment-là, il y a une très, très grande pénurie de logements. Et donc, ils appellent le Bauhaus à réfléchir sur comment transgresser, créer une solution par rapport à cette grande pénurie. Et donc, ils créent une première ébauche, une première maquette même, d'un lotissement qui fonctionne avec, en fait, une sorte de jeu à construction à grande échelle où, en fait, on a ces cubes blanches qui s'emboîtent et qui fonctionne déjà avec une idée de standardisation et de normalisation, tout en gardant une sorte de variété à l'intérieur des plans. Donc, c'est une première approche qui reste seulement maquette. Et le premier bâtiment moderniste, on va dire à proprement parler, du Bauhaus, c'est un bâtiment, une petite maison finalement, qui existe toujours aujourd'hui de tous les éléments classés par l'UNESCO, du Bauhaus, qui est la maison Haus am Horn, qui est en fait la première articulation à l'échelle réelle du mouvement moderne co-conçu par le Bauhaus, qui est une boîte blanche avec un espace assez libre à l'intérieur.
Elle se trouve où, cette maison?
Elle se trouve dans la ville de Weimar, en Thuringe.
On peut toujours la voir, je suppose.
Oui, elle est en fait tous les bâtiments du Bauhaus qui existent encore aujourd'hui. Donc à Weimar, où se crée la première Bauhaus, et puis à Dessau, où est la la suite du Bauhaus après avoir été obligé de quitter la Weimar. Et puis, dans ces deux villes, vous avez donc les témoins construits, réhabilités, rénovés, surtout de l'école du Bauhaus.
Quel a été le succès de ce mouvement? Est-ce qu'il a eu beaucoup de succès? Est-ce qu'il a essaimé?
Alors, le succès du Bauhaus était presque immédiat, mais n'était pas bien évidemment vu par tout le monde, parce que comme c'était une école qui cassait les codes de la pédagogie à l'époque, parce qu'on inventait avec Gropius une nouvelle forme de pédagogie où la dimension pratique et la dimension théorique et conceptuelle étaient au même niveau et réunies dans un même atelier par deux personnes distinctes, à la fois un praticien et un artiste. Et donc, ça, c'était déjà une première invention qui n'existait pas auparavant de combiner à ce point-là la dimension de l'enseignement. Donc, ça, c'est une forme complètement nouvelle qui crée un premier succès. Parce que ce sont aussi des enseignants d'un très grand prestige que Gropius sait réunir dans l'école. C'est Paul Klee, c'est Vassili Kandinsky, c'est Lionel Feininger, c'est Oskar Schlemmer. Ce sont donc les artistes les plus importants, par exemple, comme Vassili Kandinsky pour la peinture abstraite. Aujourd'hui, vous voyez les peintures de Kandinsky au Centre Pompidou, par exemple. Qui l'a fait d'ailleurs à Dessau quand il enseignait à Weimar et à Dessau. Gropius a su réunir, en fait, c'était ça aussi sa grande capacité de pouvoir réunir en fait ces plus grands artistes progressifs et théoriciens en même temps autour de lui. Mais pour répondre à votre question, quel était le succès? Donc la pédagogie est un succès. Et le deuxième succès, en fait, c'est cette volonté de comprendre les ateliers pour les étudiants, déjà comme des laboratoires pour des produits qu'on pourrait par la suite commercialiser. Parce qu'il faut savoir que la période en Allemagne à ce moment-là, c'était une période extrêmement difficile. Beaucoup d'étudiants avaient du mal à survivre financièrement. Et donc, les ateliers étaient déjà conçus pour pouvoir, en fait, générer de l'argent dans la mesure où on crée des prototypes. Des prototypes, par exemple, l'atelier de tissage où il y avait beaucoup de femmes était peut-être l'atelier le plus actif qui générait presque le plus d'argent parce qu'elle fabriquait, en fait, toutes sortes de tissus, des papiers peints, des matrices pour des tapis, et que ça, c'était un succès assez rapide parce que les industries se sont assez vite intéressées à ce type de production. Une autre type de production qui avait un succès très rapide, c'était l'atelier de métal qui fabriquait des lampes, toutes sortes d'ustensiles, entre la théière, la cafetière, enfin, toutes sortes d'ustensiles de la vie quotidienne qui avaient un succès assez rapide. Et puis, l'autre succès commence à devenir vraiment un succès mondial presque immédiat, c'est la construction du bâtiment du Bauhaus à Dessau, qui est inauguré le 4 décembre 1926 et qui est réalisé par Gropius et son équipe. Et c'est une manifeste de l'architecture moderne parce que le bâtiment est en quelque sorte la symbiose, la métaphore, l'expression en fait de ce qu'on comprenait à l'époque par une architecture fonctionnaliste et moderniste. Et ça devient en fait presque immédiatement une sorte d'icône de l'architecture moderne publiée en fait dans le monde entier, exposée par exemple au Museum of Modern Art en 1932. Donc quelques 6 ans après, le bâtiment est déjà connu dans le monde entier.
Est-ce que vous pourriez le décrire rapidement?
Oui, alors... qu'est-ce qu'on comprend par une architecture fonctionnaliste à l'époque? Bien évidemment, on ne peut pas le raisonner avec notre compréhension de l'architecture fonctionnaliste aujourd'hui, où on disait, voilà, le bâtiment doit être étanche, le bâtiment doit bien correspondre à toutes sortes de réglementations thermiques. Voilà, je parle un peu sur le plan technique. À l'époque, l'expérimentation de Gropius était de dire, qu'est-ce que c'est un bon fonctionnement d'une école sur la question du plan. Donc, on y conçoit un bâtiment avec un organigramme pour faciliter les flux d'étudiants et les accès aux ateliers, et puis de créer des mouvements fluides à l'intérieur du bâtiment. Ça, c'est la première chose. Et comme il y a beaucoup d'ateliers, il faut avoir de la lumière, il faut avoir beaucoup d'ouverture. Donc, en fait, comme la technologie de l'époque de construction le permet, il crée en fait le bâtiment en partie en béton armé, une ossature en béton armé, qui tient à l'intérieur de le bâtiment. Donc, en fait, il superpose quelques plateaux qui sont des ateliers. Et autour de ces plateaux qui sont portés par une structure intérieure, il accroche une façade en verre. Mmh. Parce que la façade, le mur, n'a plus d'existence dans le sens à ce que le mur porte quelque chose. Le mur peut être complètement dématérialisé. Et donc, il renverse en quelque sorte les codes de l'architecture par cette idée-là. Et il utilise les matériaux industriellement fabriqués à l'époque, comme le béton armé, l'acier et le cristal, ou le verre de cristal industriellement produit avec un bardage métallique qui est donc rassemblé et monté sur place.
Qu'est-ce qui a été reproché à ce mouvement? Quelle critique?
Beaucoup de choses. Bien évidemment, il faut comprendre que l'Allemagne, à la fin des années 20 et au début des années 30, rentre dans une phase très difficile de son histoire. Avec la montée du national-socialisme, on rapproche tout au Bauhaus. Le Bauhaus est en quelque sorte une sorte de bouc émissaire pour beaucoup de choses. Et donc, par exemple, lorsque les élections à Dessau sur le plan municipal ont eu lieu en 1932, c'est le parti d'extrême droite qui remporte les élections, et qui remporte les élections en partie aussi parce qu'ils ont fait en fait toute une campagne contre le Bauhaus. Parce que D'accord. Le Bauhaus est trop moderne, le Bauhaus est trop ouverte. C'est l'un des premières écoles après 1919 de créer en fait les curriculums pour les femmes. Donc c'est quelque chose qui déplaît à une bourgeoisie, à une forme de establishment qui n'est pas ouverte pour cette forme de communauté. Parce que le Bauhaus est aussi une communauté où les gens travaillent, mais aussi vivent à proximité. Parce que c'est un travail intense, c'est un travail de tous les jours. Donc, ce n'est pas juste une école où on se rend et on reste quelques heures et on repart. Bon, c'est une vie. Enfin, pour la plupart de ces élèves, c'est une vie. Donc, ça crée une communauté. Et dans une ville conservatrice, c'est difficile. Et donc, on rapproche au Bauhaus. Et ça, en fait, c'est la politique de l'époque qui fait une campagne très destructeur pour le Bauhaus, parce que Bauhaus va être fermé en 1932 par ses forces d'extrême droite, et qu'elle a déjà, l'école a déjà subi le même sort à Weimar en 1923. Mm-hmm. C'est ça qu'on rapproche. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rapprocher au Bauhaus si on sort du contexte politique?
Oui. Mm-hmm.
Bien sûr, on lui rapproche son fonctionnalisme, parfois pas du tout abouti. On lui rapproche peut-être aussi que l'enseignement aurait dû être plus abouti, mais il faut savoir aussi que cette école n'existe que pendant une période très courte. Ça veut dire pendant 1919 à 1933, lorsque la dernière étape Air Berlin est fermée définitivement. Et donc, ça fait qu'à peine 13 ou 14 ans pour une école. Et donc, c'est très peu de temps. Dans une situation politique, sociale, qui est extrêmement compliquée. Je pense que ça serait injuste de dire qu'il faudrait rapprocher, il faudrait peut-être plus avoir un regard parfois critique. Mais il faut garder dans l'esprit qu'on ne peut pas imaginer toutes les difficultés qu'ils avaient à l'époque. Et que malgré ces difficultés, cette école a pu exister, et non seulement exister, mais pu mettre en œuvre les grandes icônes aussi de l'architecture et du design que nous utilisons encore aujourd'hui. Les chaises du Bauhaus, les ustensiles du Bauhaus, les lampes. En fait, tout le monde connaît la chaise Vassili de Marcel Breuil de 1925, qui a été créée au Bauhaus. Tout le monde connaît le tabouret de Marcel Breuil. Donc, c'est bien sûr, si on dit, voilà, sur le confort, sur la dimension ergonomique, c'est peut-être pas très, très confortable, certes, mais en fait, c'est un concept aussi et que tout ce qui était créé dans les ateliers, c'était des expérimentations. Il faut aussi le voir sous un plan d'expérimentation. Quand j'ai travaillé au Bauhaus, dans la collection qui se trouve à Dessau, il y a beaucoup de prototypes qui ont été réalisés pendant les années 20. Et ils ne sont pas tous très, très commodes. Ce sont des prototypes. Et que ces chaises ou ces meubles sont issus aussi de cette volonté. Mais ils n'ont pas forcément pu aboutir parce que la plupart de ces enseignants ont dû quitter l'Allemagne, ont été en partie exclus du monde professionnel pour ceux qui sont restés en Allemagne, ou ont été même assassinés. Donc, c'est une réalité qui fait qu'une école qui n'a eu si peu d'existence, je pense que ça serait injuste de lui reprocher quelque chose.
Et elle existe toujours depuis la fin de la guerre, elle a été réouverte.
Non, pas du tout. Alors, c'est autre chose. Alors, elle était fermée lorsque le Bauhaus quitte Dessau en 1932. Le troisième directeur du Bauhaus, qui n'est plus Walter Gropius, qui quitte le Bauhaus en 28, donc le troisième directeur, qui s'appelle Ludwig Mies van der Rohe, essaye de maintenir le Bauhaus et quitte le Bauhaus pour s'installer à Berlin dans une ancienne usine où on fabriquait des téléphones. Et il maintient aussi le Bauhaus pendant quelques mois et que le Bauhaus ferme. Donc, il n'y a plus d'école.
D'accord.
Tous les membres sont dispersés dans le monde entier. Beaucoup restent en Allemagne, mais beaucoup vont aux États-Unis, jusqu'en Australie, au Japon. Donc, en fait, il y a un rayonnement international dans les gens qui quittent après le Bauhaus et qui sont obligés aussi de quitter l'Allemagne pour survivre. Et donc, à partir de 1945, comme Dessau se trouve dans la zone occupée par des soviétiques, il y a beaucoup de tentatives de réouvrir l'école. Le bâtiment est très endommagé par la guerre, donc c'est quasiment une ruine, ce qui reste en 1945. Donc, on essaye de la remettre en œuvre, mais les forces soviétiques sont contre cet esprit libre. Oui. Donc, l'école ne peut pas ouvrir. Ce qu'on va installer à l'intérieur, ce sont des écoles pour des jeunes filles. En fait, toutes sortes de différents types d'écoles vont être installées, mais qui n'ont absolument rien à voir avec le Bauhaus. Et en 1976, est rénové pour la première fois le bâtiment du Bauhaus pour son 50e anniversaire à Dessau. Et on va y installer une sorte d'annexe du ministère de la Culture de l'ancienne RDA, qui travaille sur le design, qui fait une collection, mais ce n'est pas une école, c'est une sorte d'institut annexe. Et puis successivement, une collection se crée, et à partir de la réunification, cette annexe du ministère de la Culture de l'ancienne RDA devient une fondation qui s'occupe du patrimoine du Bauhaus, qui continue sa collection et qui crée une sorte d'unité de recherche qui a, pendant un certain nombre d'années, créé un type d'enseignement sur l'architecture et l'urbanisme contemporain.
D'accord.
Mais ce n'est pas du tout une école. L'école du Bauhaus s'est arrêtée en 1933.
L'esprit est perdu.
L'esprit est perdu, en fait, oui, parce que les membres n'ont pas pu continuer. Oui. Et ce qui fait après, c'est peut-être dans l'esprit, mais ça n'a rien à voir avec la structuration des années 20.
D'accord. Et qu'est-ce qu'il reste en architecture de cette expérience actuellement?
Alors, sur le plan stricto sensu, Dessau-Weimar, il existe donc l'école où le Bauhaus s'est installé en 1919. C'est un bâtiment d'un architecte belge qui s'appelle Henri Van de Velde, qui dirigeait l'école jusqu'en 1914. Et après, il était obligé de quitter l'Allemagne puisqu'il était belge, donc considéré comme ennemi. Et donc, ce bâtiment existe encore aujourd'hui avec la reconstitution des peintures murales de Oskar Schlemmer, par exemple, qui sont dans le bâtiment. Ce qui existe aujourd'hui aussi, c'est cette petite maison dont j'ai parlé tout à l'heure, le Haus am Horn. Donc, ça, c'est à Weimar. Et à Dessau, subsistent presque tous les bâtiments qui ont été créés à l'époque. Ça veut dire le bâtiment du Bauhaus, l'école, les maisons faites pour les professeurs du Bauhaus, pour Kandinsky, pour Klee, pour Schlemmer, pour Feininger, pour Mouche. Toutes ces maisons existent, même si ces maisons ont été fortement modifiées pendant la période de l'ancienne RDA. Ça a été, en fait, tout a été remis à l'état de 1926 aujourd'hui.
D'accord.
Ce sont des maisons extrêmement colorées à l'intérieur, avec parfois 50 couleurs différentes. Donc, c'est très, très coloré à l'intérieur. Et donc, tout ça, ça a été reconstitué. Et donc, on peut le visiter. Tout est visitable. Il reste un restaurant au bord de l'Elbe, parce que Dessau est au bord de l'Elbe, qui a été fait par un enseignant du Bauhaus. Il reste l'agence de l'emploi qui a été créée par Walter Gropius. Il reste le lotissement qui s'appelle Dessau-Törten, qui se constitue de 328 maisons et logements, fait comme l'une des premières expérimentations en Allemagne de la construction préfabriquée et montée dans un esprit industriel sur place. Et il reste une autre maison individuelle d'un architecte. Donc, il y a pas mal de choses à visiter quand on voit à Weimar ou à Dessau du Bauhaus. Le tout est classé, les sites de Weimar et de Dessau est classé depuis 1996 par l'UNESCO comme patrimoine mondial. Et donc, on peut y voir aujourd'hui au bâtiment de Bauhaus des expositions itinérantes. Et depuis l'année passée, l'anniversaire du Bauhaus, du centenaire du Bauhaus de l'année passée, il y a un nouveau bâtiment qui a été ouvert, pas très loin du Bauhaus historique, qui fonctionne comme un vrai musée. Parce que le Bauhaus, comme le bâtiment a été mis dans l'état, on va dire, de 1926, quand je travaillais là-bas, on ne pouvait pas vraiment faire des vraies expositions avec des vraies œuvres parce qu'on ne pouvait pas climatiser le bâtiment. C'était D'accord. très difficile. Et donc, aujourd'hui, à côté, il y a un nouveau bâtiment qui accueille donc les expositions et qui fonctionne donc comme, on va dire, comme lieu d'exposition. Et le bâtiment est un objet d'exposition à lui-même, tout seul, en D'accord. quelque sorte. Qu'on peut visiter. Et puis, il y a des bureaux. Bien sûr, il y a des bureaux dedans. Et la collection également.
Notre émission sur le Bauhaus se termine. Merci à vous d'avoir écouté, chers auditeurs. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Merci à Elke Mittmann qui nous a donné énormément d'informations très précises, très intéressantes sur ce mouvement qui nous a permis de bien comprendre. Moi aussi, j'ai mieux compris ce mouvement. Merci et à bientôt. Et j'espère que nous retrouverons Elke Mittmann dans une autre émission sur des artistes allemands. Bis bald, tschüss, au revoir.